Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 15 juin 2021. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En Somalie, 15 morts dans un attentat suicide contre un centre d'entraînement militaire à Mogadiscio. Deux attaques dans l'état du plateau au Nigeria ont fait 12 morts ce week-end. Déroulement au Maroc du plus grand exercice annuel du commandement militaire américain pour l'Afrique. Joe Biden est en Suisse à la veille d'un sommet avec son homologue russe Vladimir Poutine. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. En Somalie, au moins 15 morts dans un attentat suicide ce lundi contre un centre d'entraînement militaire à Mogadiscio. Le point avec Jean-Roger Bion.
Un kamikaze déguisé en soldat s'est fait exploser devant des recrues qui faisaient la queue devant le camp militaire général d'Egobadan dans l'est de la ville, a déclaré un officier, Mohamed Adan, affirmant avoir compté une quinzaine de nouvelles recrues qui ont été tuées dans l'explosion. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais la Somalie est la cible fréquente d'opérations de miliciens d'Al-Shabaab, un groupe islamiste qui cherche à renverser le gouvernement pour établir un État islamique. Depuis 2008, il mène des assauts armés contre des militaires du pays et ses voisins kényans et ougandais. Le 28 décembre 2019, une attaque à la voiture piégée contre un poste de contrôle dans un quartier animé de Mogadiscio avait fait au moins 81 morts. Cet attentat n'a pas été revendiqué par les Shabab. Le 17 août 2020, une attaque d'envergure revendiquée par les Shabab sur un hôtel de Mogadiscio, fréquenté par des responsables gouvernementaux, avait fait, lui, 11 morts.
Dans le nord-est de la Centrafrique, 14 personnes ont été tuées le 10 juin dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs près de la frontière avec le Tchad. Tout est parti d'un malentendu entre un agriculteur et un éleveur qui a amené son bétail dans un champ à Tiri, a indiqué le maire de cette commune. Les troupeaux ont dévasté les récoltes et l'éleveur a été tué après une violente dispute. En représailles, des éleveurs venus du Tchad ont tué 14 personnes et incendié 66 maisons. Près de 3000 personnes ont fui le village, selon le préfet de la région de Bamingi, Bangoran. Le groupe des experts de l'ONU chargé de l'application des sanctions en République démocratique du Congo met en garde contre la prolifération des engins explosifs improvisés dans le nord-est du pays, dans un rapport remis au Conseil de sécurité. La MONUSCO doit développer ses capacités de détection et d'intervention sur ces engins explosifs, précisent les experts. Au Nigeria, deux attaques dans l'état du plateau ont fait au moins 12 morts ce week-end, indique la police ce mardi. Le point avec Abdourahmane Dia.
Lors de la première attaque, des hommes armés à bord d'un véhicule ont ouvert le feu sur un bar à Jos dans l'état du plateau, tuant 10 personnes selon le porte-parole de la police locale, Uba Ogaba. L'identité des assaillants, de même que le motif de l'attaque, ne sont pas encore connus. La police a aussi indiqué que deux personnes ont été abattues dimanche dans le village de Zagoun, toujours dans l'état du plateau. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont en proie à des tensions entre éleveurs nomades et agriculteurs qui se disputent l'accès à l'eau et les terres. Les cas d'enlèvement en échange de rançons se sont également multipliés ces derniers mois dans le pays. La ville de Jos, dans l'état du plateau, se situe entre le sud, majoritairement chrétien, et le nord, majoritairement musulman. La ville a connu plusieurs conflits intercommunautaires ces dernières années.
Le médiateur de la République guinéenne, le général Fassiné Touré, est décédé des suites de maladie. Dans un communiqué diffusé ce mardi, le président Alpha Condé présente ses condoléances à ses proches et aux forces armées. Monsieur Touré était l'un des fondateurs de l'armée guinéenne. Ancien proche de l'ancien président Lansana Conté, il a ensuite pris ses distances avec lui. Les États-Unis ont annoncé interdire d'entrer sur leur territoire deux ex-ministres namibiens accusés d'avoir accepté des pots de vin. L'ancien ministre de la Pêche, Bernard Ezo, et l'ex-ministre de la Justice, Saki Sangala, ainsi que les membres de leur famille et leurs familles proches, ne seront pas autorisés à entrer dans le pays, a déclaré le département d'État. L'ancien président zambien Kenneth Kaunda, âgé de 97 ans, a été hospitalisé pour une pneumonie et son état de santé s'améliore, a affirmé son assistant. Le premier président de la Zambie qui a dirigé le pays pendant 27 ans a été hospitalisé lundi dans un hôpital militaire de Lusaka. Rodrigue N'Golo a démenti des rumeurs disant qu'il aurait contracté la Covid. Le parti au pouvoir en Algérie, le Front de Libération Nationale, a remporté les législatives organisées samedi, a annoncé l'autorité électorale. Le FLN est en tête avec 105 sièges sur 407, suivi des candidats indépendants avec 78 sièges. La principale formation islamiste, le MSP, qui avait revendiqué la victoire, arrive troisième avec 64 sièges. Le FLN perd néanmoins plus de 50 sièges et contrôle un quart des élus de la nouvelle assemblée. Le taux de participation a été historiquement bas à 23%. Au Maroc, le plus grand exercice annuel du commandement militaire américain pour l'Afrique, co-organisé par l'armée marocaine, se déroule jusqu'au 18 juin avec des manœuvres terrestres, aériennes et maritimes. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
African Lion est le nom donné cette année au plus grand exercice annuel du commandement militaire américain pour l'Afrique. Co-organisé par l'armée marocaine, l'exercice mobilise sur 10 jours une centaine de blindés, 67 avions dont 21 de combat, pour un budget de 24 millions de dollars. Le premier ministre marocain, Saad Eddine El Othmani, avait affirmé début juin que l'exercice aurait lieu pour la première fois au Sahara occidental, en se félicitant de la consécration de la reconnaissance américaine du Sahara marocain. Mais son annonce avait été démentie par le Pentagone. Les premiers exercices, avec sauts en parachute de troupes aéroportées et tirs de roquettes, se sont tenus dans le désert, à la lisière du Sahara occidental, à une cinquantaine de kilomètres de Tindouf, la base des indépendantistes du Front Polisario en Algérie. Dans le cadre d'un accord négocié par l'ex-président Donald Trump, les États-Unis ont reconnu en décembre 2020 la souveraineté du Maroc sur ce territoire, revendiqué par le Polisario en contrepartie d'une reprise des liens diplomatiques entre le Maroc et Israël.
Quelques 150 migrants ont essayé en vain ce mardi d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc, blessant 9 membres des forces de l'ordre, ont annoncé les autorités locales. Les migrants d'Afrique subsaharienne, pour la plupart, avaient des bâtons et ont jeté des pierres sur la garde civile, a indiqué la préfecture de l'enclave.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden est en Suisse ce mardi, à la veille d'un sommet avec son homologue russe Vladimir Poutine. Le point avec Jacques Aristide.
Le locataire de la Maison-Blanche arrive donc à Genève, fort du soutien réaffirmé des plus proches alliés des États-Unis, qu'il a tenu à rassurer après les années de Donald Trump. Demain, ce sera le premier tête-à-tête de Joe Biden avec Vladimir Poutine depuis le début de son mandat. Le ton est donné. Yuri Yuchak, un proche conseiller du président russe, affirme que les relations entre Moscou et Washington sont au point mort et que la rencontre entre les deux dirigeants peut aider à y remédier. Vladimir Poutine et Joe Biden doivent évoquer la pile de contention entre les deux rivaux des accusations d'attaques informatiques et de violations des droits humains, en passant par les tensions militaires. Le président américain a déjà promis de dire à son homologue russe quelles sont ses lignes rouges. Nous ne cherchons pas un conflit avec la Russie, mais nous répondrons si la Russie continue ses activités, a-t-il déclaré à Bruxelles hier. Joe Biden a estimé que Vladimir Poutine était un homme intelligent et dur. Il s'est particulièrement attardé sur le sort de l'opposant emprisonné Alexei Navalny. À la fin du sommet de Genève, demain, le président américain tiendra seul une conférence de presse au lieu de partager la tribune avec son homologue russe, comme Donald Trump l'avait fait en 2018.
Avant son départ pour la Suisse, le président américain Joe Biden était à un sommet Europe-États-Unis à Bruxelles, où un accord sur le vieux conflit Airbus-Boeing a été trouvé. Les deux parties ont accepté de suspendre pendant 5 ans les droits de douane punitifs, a dit à la presse la représentante américaine au commerce Catherine Tai. La prolongation de la trêve s'accompagne d'une suspension des sanctions douanières imposées aux vins français. Le gouvernement américain a dévoilé une stratégie nationale contre le terrorisme intérieur. L'administration Biden souhaite améliorer le partage d'informations sur les groupes et militants extrémistes. Le ministère de la Justice et la police fédérale ont mis en place un nouveau système de signalement. Le gouvernement veut aussi contrer les appels à la violence en collaboration avec les groupes technologiques et les réseaux sociaux. Dans un entretien paru lundi dans le New York Times, la directrice d'un laboratoire de l'Institut de virologie de Wuhan a démenti la théorie selon laquelle le virus à l'origine de la COVID-19 aurait pu s'échapper de son institution. Le président américain Joe Biden avait appelé en mai les services de renseignement à redoubler d'efforts pour expliquer les origines du virus, déplorant le manque de transparence de Pékin. La théorie d'un accident de laboratoire en Chine est revenue en force récemment dans le débat américain. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans La Minute Éco, présentée par Jean-Roger Bion.
L'Éthiopie a lancé ce mardi la privatisation partielle de son opérateur public, Ethio Telecom. L'ouverture du capital de cette compagnie, jusqu'ici 100% public, est l'une des pierres angulaires du train de réforme économique annoncé par le premier ministre Abiy Ahmed à son arrivée au pouvoir en 2018. Les investisseurs ont 30 jours pour manifester leur intérêt avant la deuxième phase du processus au cours de laquelle seront attendues les offres. Le géant minier australien Fortescue a confirmé qu'il était en négociation pour développer en République démocratique du Congo ce qui serait le plus grand projet hydroélectrique du monde. Fortescue confirme que des discussions ont eu lieu avec le gouvernement de la RDC au sujet des droits exclusifs à développer les grands projets Nga, a indiqué ce mardi le groupe dans un communiqué. La République démocratique du Congo ne parvient pas à transformer ses richesses minérales et la vaste majorité de ses quelque 80 millions d'habitants n'a pas accès à l'électricité. Des responsables européens et américains ont confirmé ce mardi un accord entre l'Union européenne et les États-Unis pour résoudre leur vieux conflit sur les subventions accordées aux avionneurs Airbus et Boeing. Les deux parties ont accepté de suspendre pendant 5 ans les droits de douane punitifs qu'ils s'infligent dans le cadre de ce contentieux, a expliqué la représentante américaine au commerce, Catherine Tay.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. On connaîtra ce soir le dernier qualifié pour la prochaine CAN prévue en janvier et février prochain au Cameroun. Opposé au Bénin à Conakry en Guinée, les Sierra Leonais se sont imposés sur la plus petite des marques 1-0, suffisant pour arracher leur ticket de qualification face aux écureuils béninois qui n'avaient pourtant besoin que d'un match nul pour se qualifier. Ce match de la dernière journée de la poule, elle, a enfin eu lieu ce mardi après un report hier à cause d'un nouveau rebondissement lié à des tests Covid. La Sierra Leone accompagne donc le Nigeria dans le groupe L pour la CAN qui va se jouer au Cameroun en janvier et février 2022. Des nouvelles de l'Euro, le groupe F boucle ce soir les premières sorties dans cet Euro avec Karim Benzema et Kylian Mbappé associés dans une attaque de rêve. La France met son ambition à l'épreuve de l'Allemagne à Munich. Dans le match au sommet de ce soir, hier, l'Espagne a raté ses débuts à Séville. Aurora a déçu son public face à la Suède 0-0. Défaite surprise de la Pologne de Robert Lewandowski face à la Slovaquie 2-1. L'Écosse, absente des compétitions internationales majeures depuis 1998, a aussi raté son retour en s'inclinant 2-0 devant la République tchèque. Playoff NBA, les Clippers et Atlanta remettent le compteur à zéro. Bagassi Koura.
Oui, les Clippers ont battu Utah 118-104 pour égaliser 2-2 dans leur demi-finale de conférence Ouest. Le succès tient donc d'abord à une défense particulièrement coriace, 6 contre 6 interceptions, une défense qui a énormément gêné Utah, et ensuite à l'efficacité retrouvée de Paul George, 31 points, et Kawhi Leonard, 37 points, qui ont fait montre d'une agressivité salutaire dans l'attaque au panier. Los Angeles Clippers et Utah sont à égalité, 2 victoires partout. À l'Est, Atlanta fait son comeback face à Philadelphie, battu 103-100. L'avance s'est pourtant d'abord accrue pour les Sixers dans le sillage de Joel Embiid, alors intenable dans la raquette au premier quart-temps. 15 points, mais le pivot camerounais parti rapidement soigner son genou droit au vestiaire entre le premier et le deuxième quart-temps n'a pas du tout montré le même visage en seconde période, hormis 2 lancers francs. Embiid a tout raté dans ce second acte. Atlanta et Philadelphie sont à égalité, 2 victoires partout.
Merci, Bagassi.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Cameroun, les autorités médicales plaident pour les donneurs de sang après une importante baisse des dons du sang qui ont diminué de moitié depuis 2020. Une situation qui aggrave la pénurie de sang dans le pays. Voici un reportage de Moki Edwin Kinzeka réalisé dans le cadre de la Journée mondiale du don du sang célébrée hier. Le récit est de Yakuba Ouedraogo.
Les autorités camerounaises citent Alphonse Souchia, 32 ans, comme un bon exemple de donneur de sang volontaire et déterminé. Chia dit qu'il est devenu un donneur de sang lorsqu'il a été témoin d'un incident au cours duquel le personnel médical n'a pas pu aider à sauver la vie d'un enfant.
L'enfant arrivait à 4 heures, très fatigué, il était tout pâle, il avait du mal à respirer et il avait une anémie sévère. Et malheureusement, cet enfant est décédé à peine une heure après son arrivée à cause de son anémie sévère. Et la plupart du temps, les causes de décès, c'était des anémies sévères, c'était le retard à l'arrivée du sang pour la transfusion sanguine.
Chia dit qu'il était traité pour le paludisme à l'hôpital et qu'il ne pouvait pas donner de sang à l'époque. Depuis, il a rejoint une association appelée Green Hearts qui donne du sang aux personnes dans le besoin. Le Cameroun affirme avoir besoin de 400 000 poches de sang chaque année pour répondre aux besoins médicaux de ses 25 millions d'habitants. Mais en 2020, les gens n'ont donné que 48 000 unités de sang contre 103 000 en 2019. Les dons de sang ont encore baissé cette année. Dorangoum Soumbania est directrice du Centre national de transfusion sanguine du Cameroun. Elle dit que le COVID-19 fait peur aux gens qui ne veulent plus donner leur sang.
Avec la pandémie de COVID en 2020, il y avait un déficit de 44% dans le don de sang. Ce que nous avons compris, c'est que le COVID a un impact énorme sur le don de sang. L'OMS a établi des critères selon lesquels si vous êtes une personne guérie du COVID-19, vous avez environ un mois après votre rétablissement, avant de pouvoir faire un don.
Les mythes populaires entourant le don de sang et la transfusion sont un autre obstacle.
Il y a ceux qui pensent que vous prenez leur sang et que vous faites de la sorcellerie avec et qu'ils ne peuvent donc pas donner leur sang. Il y a ceux qui ont des croyances religieuses selon laquelle vous ne pouvez pas prendre le sang d'une personne et le donner à une autre personne. Ces personnes ne veulent pas donner leur sang et ne voudraient pas non plus en recevoir. Et donc, nous voulons encourager nos jeunes à assumer des rôle de leadership dans la promotion de la santé dans notre pays par le biais du don du sang.
Alors que le Cameroun est aux prises avec une crise séparatiste dans deux régions de l'Ouest, des attaques de Boko Haram dans le Nord et des débordements occasionnels de violence depuis la République centrafricaine, le gouvernement affirme que le besoin de sang pour soigner les blessés est plus élevé que jamais.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République du Congo, les autorités s'inquiètent du non-respect des mesures barrières contre la COVID-19 et surtout du manque d'engouement pour la vaccination. Des équipes de crieurs sont déployées à Pointe-Noire, la capitale économique, pour persuader la population de se faire vacciner. Un reportage de Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Après un réel mais bref succès à Brazzaville, la campagne de vaccination contre la COVID-19 peine à décoller dans les quartiers de la capitale et de Pointe-Noire. Dans la ville pétrolière, les autorités ont lancé un groupe de crieurs dans les quartiers pour persuader la population à aller se faire vacciner. Pierre Joachim Gomakik, maire de Lumumba, un quartier de Pointe-Noire, trouve les mots pour convaincre la population.
Nous avions sensibilisé les chefs de quartier, les chefs de zone, le chef de bloc pour accompagner les crieurs pour cette opération dans notre arrondissement. Nous ne croyons pas à ceux qui racontent les choses dans les réseaux sociaux que le vaccin n'est pas bon. Je peux vous rassurer que tous les vaccins ont été homologués par l'OMS. Donc nous demandons à la population de notre arrondissement d'aller se faire vacciner massivement.
Mais à Brazzaville, le gouvernement s'inquiète de faibles résultats obtenus jusque-là, surtout dans le non-respect des mesures barrières par les jeunes. Le ministre de la Santé, Gilbert Mokoki, a exprimé son inquiétude devant les sénateurs.
Beaucoup de jeunes ne portent même plus le masque. C'est vraiment un risque. Il n'y a pas une forte adhésion à la vaccination, alors qu'aujourd'hui,
la solution pour se protéger contre la COVID-19, c'est la vaccination.
Les scientifiques ont des raisons face à cette situation qui frise le désespoir. Pour la professeure Francine Toumi, qui mène d'importantes recherches sur ce virus, il y a une faiblesse dans la communication des masses.
La question qu'il faut se poser, est-ce que la communication est faite correctement pour informer la population sur la situation épidémiologique au Congo ? Personnellement, je ne vois pas. Alors là, pour moi, c'est un gros souci, parce que la vaccination est le moyen de prévention le plus efficace. Même si on ne sait pas si tous les variants peuvent être neutralisés par la vaccination, mais ça reste un moyen de prévention très important. Vous savez très bien que les réseaux sociaux font une campagne contre la vaccination et que la population est très connectée, écoute beaucoup ces sons de cloche. Alors, il faut faire, pour moi, le poids contraire.
Jusque-là, le Congo-Brazzaville s'en sort plutôt bien dans la lutte contre la COVID-19. Depuis mars 2020, le pays compte 11 000 cas pour 150 décès. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la première visite chargée de Joe Biden à l'étranger depuis sa prise de fonction. Après avoir pris part à une rencontre du G7, le locataire de la Maison-Blanche a participé au sommet de l'OTAN avant son face-à-face avec le président russe Vladimir Poutine. Pour l'administration Biden, ce voyage marque le retour de Washington dans son rôle de leadership mondial et une manière de réparer ses relations avec ses alliés traditionnels. Nous discuterons de l'Amérique sous Biden et le reste du monde ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com.
Le président américain Joe Biden a rencontré ce mardi des alliés de l'Union européenne après avoir participé à un sommet avec les dirigeants de l'OTAN et avant son face-à-face très attendu avec son homologue russe Vladimir Poutine. De Bruxelles, le reportage de Patsy Widakuswara, correspondante de La Voix de l'Amérique à la Maison-Blanche. Le récit est de Jacques Aristide.
Après le sommet du G7 en Grande-Bretagne, une autre réunion pour solidifier les relations transatlantiques, celle à Bruxelles de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Les 30 pays membres ont réaffirmé l'alliance militaire qui lie l'Europe et l'Amérique du Nord. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN.
C'est surtout à un moment où des régimes autoritaires comme la Russie et la Chine remettent en question l'ordre mondial fondé sur des règles.
Le président américain profite de ses réunions avec l'OTAN et l'Union européenne pour renforcer le soutien dont a besoin Washington face à Pékin et Moscou avant son tête-à-tête prévu demain avec le président russe Vladimir Poutine, le président Joe Biden.
Russia and China are both seeking to drive a wedge in our transatlantic solidarity.
La Russie et la Chine cherchent toutes deux à creuser un fossé dans notre solidarité transatlantique. Nous assistons à une augmentation de la cyberactivité malveillante. Mais notre alliance a des bases solides.
Alors que les alliés conviennent qu'ils doivent être fermes par rapport aux activités de Moscou, y compris les cyberattaques, l'ingérence électorale et ses ambitions expansionnistes, il y a moins de consensus sur la façon de traiter avec Pékin. Pour le président français Emmanuel Macron, les relations avec la Chine dépassent le cadre de l'OTAN.
Il est économique, il est stratégique, il est de valeur, il est technologique. Et de ne pas divertir en quelque sorte l'OTAN qui a déjà beaucoup de défis quand on voit les sujets que nous avons à traiter.
Pourtant, les dirigeants européens ont unanimement salué l'engagement du président américain en faveur du multilatéralisme après 4 ans du slogan « L'Amérique d'abord » de l'ancien président Donald Trump qui avait qualifié l'OTAN d'obsolète. Il avait également dit que l'OTAN coûtait trop d'argent aux États-Unis. La chancelière allemande Angela Merkel.
Nous avons pu ouvrir un nouveau chapitre avec le président américain Joe Biden, qui a clairement indiqué dès le départ que les États-Unis d'Amérique avaient un engagement clair envers l'OTAN.
Le plan OTAN 2030 a été adopté avec pour objectif d'affronter la concurrence mondiale croissante et les dangers imprévisibles comme la pandémie de Covid-19 et le changement climatique. Alice Billon-Galland, analyste avec la Chatham House.
Il y a encore des questions litigieuses à régler et ce sommet a été le point de départ du processus de réflexion qui conduira les alliés à s'accorder sur le renouvellement de leur concept stratégique, qui est essentiellement leur feuille de route en termes de ce qu'ils veulent faire ensemble.
Les dirigeants ont notamment parlé du retrait des troupes américaines et celle de l'OTAN d'Afghanistan prévue pour le 11 septembre de cette année.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Tell me that you're coming through.